Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 7 janvier 2025, vous écoutez le 17e épisode de la saison 8 de Sneak On Air. Sneak On Air, la première et la seule émission 100% sneakers au monde, animée par toute l'équipe de Sneakers Empire. You will not be able to change the channel.
Money's gotta be the shoes.
You sure it's not the shoes?
Do you know?
Yeah, 1, 2, 1, 2.
Yo, what up? This is A1. And I'm chilling on Sneak On Air, man. It's the one and only radio show 100% talking Still. About sneakers in the world, hosted by Sneak. Every Tuesday, 8 p.m. to 9 p.m. on RBS 91.9 FM. Chill, don't sleep.
That's right.
Look, Mom, I can fly.
Yo, man, your Jordans are fucked up.
Sneak On Air, épisode 17, saison 8. Bienvenue à tous dans ce 17e épisode, 17e EP. Et premier épisode de 2025 dans Sneak On Air. Une nouvelle année débute. Avec elle, l'espoir de voir des sorties sneakers toujours plus innovantes, des tendances qui repoussent les limites et des designs qui marquent leur époque. Nous vous souhaitons à tous et à tous une excellente année 2025, qu'elle soit forte et propice en cop de basket, que vous ayez celle que vous voulez quand vous voulez être tiré. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pauline et Jacques qui partageront avec nous leur expertise sur l'évolution du design dans l'univers du running et bien plus encore. Une émission riche en discussions et en perspectives passionnantes. Alors, bienvenue à tous et à toutes dans ce 17e EP de la saison 8 de Sneak On Air, là où la culture se vit en basket. Au programme, notre traditionnel qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio, un peu d'infos autour des baskets et celles qui sortent cette semaine, et nous aurons le plaisir d'accueillir Pauline Streisel qui est avec nous et Jacques qui est là aussi pour parler de design, pour parler de la marque aux trois bandes. On est ravis d'être avec vous, mais cette émission ne serait rien sans nos poteaux. Ils sont là autour de la table. On peut démarrer avec mon ami Funky P. Salut Manu.
Yo, ça va ou quoi?
Ça va super, et toi?
Trop bien, trop bien. Avant que j'oublie, big up à Lorraine et Cassandre. Voilà, c'était tout. Sinon, je vais me faire taper.
Et ben voilà, c'est fait.
Lorraine, Cassandre, hein, fais gaffe.
Yes, vous l'avez entendu. C'est Raph. Salut Raph, comment
Yo,
vas-tu?
Ça va, bonne année tout le monde.
Bonne santé.
J'ai pas mis mes échos, mais je travaille dessus.
Allez, ça va être dans quelques instants. Il est sur ta gauche, c'est Krish qui est dans la place. Salut frérot, comment
Salut,
ça va?
Ça va, dédicace à ma mère qui est malade, qui a la grippe.
Et ben,
on m'écoute pas, mais c'est pas grave.
Et tous nos auditeurs et toute l'équipe de Sneak Empire et d'RBS te souhaitent un excellent anniversaire.
Ah, merci. Putain, je suis vieux.
Oui.
Wow. Anniversaire. 92 ans, 96. Non, c'est pas toi.
Je suis trop les nerfs. Non, rest in peace, par contre, c'est moche.
Ouais, ah. C'est pas le peine de faire des blagues aujourd'hui. Hein.
Non.
Oh là.
Ce n'est qu'un détail. Allez, on continue.
Vous parlez de qui, là?
Tu t'es pas au courant, Jacques?
Wow. JMP. JMP ou JMP, tu dis toi?
C'est un joueur de Racing?
C'est ça. Ouais, exactement.
Très très bon.
Qui était un bon joueur d'ailleurs. Un bon joueur. Salut Jacques, vous l'avez reconnu, il est dans la place. Salut Jacques, tu vas bien?
Salut tout le monde, oui, je vais bien. Et puis bonne année à tout le monde.
Hein. Merci.
Bonne santé, c'est l'essentiel. Et puis tout plein de réussite à toutes les auditrices et auditeurs.
Et voilà, parce que je parle toujours des filles en premier, t'as remarqué.
Voilà.
Et voilà, et on est très heureux de recevoir une demoiselle, une fille qui design dans les baskets, c'est Pauline. Salut Pauline, tu vas bien?
Hello, oui, ça va bien.
Ouais, la forme?
Et toi?
Ouais. Bah écoute, super, très heureux de retrouver le studio après 15 jours de trêve. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le qu'est-ce que tu portes. Et toi, Pauline, tu es venue chausser de quoi?
Ah, j'ai des Adidas Response.
Ouais?
C'est elle, je crois.
Tu te rappelles de l'année de sortie?
Non, je m'en rappelle non. pas.
Ça c'est 2022 je crois, ouais, 22-23, un truc dans le genre, ouais, la CL, ouais c'est 2022-2023.
L'original c'était mi-90.
Ouais, oui, mais mi-90, Pauline n'était pas encore née, je crois. Donc, donc forcément.
Mais c'était, ouais, ouais. C'était toi, Jacques ?
Non, c'était pas moi directement, mais bon, c'était avec Peter Moore, puisque comme on a commencé Equipment début 90, il a fallu structurer un peu la collection pour essayer d'introduire une gamme, un milieu de gamme, au point du prix, mais aussi au point de qualité. Et donc, c'est devenu Response.
De toute façon, en 90, c'est soit Jacques, soit Peter. Donc, en vrai, tu
vois. Voilà. Donc, on a fait du running, on a fait du tennis, il y a eu du basket.
Du basket, ouais.
Et souvent, en ayant lu un peu le livre sur Peter Moore et le livre sur Jacques, souvent Jacques dit « Non, mais c'est beaucoup Peter ». Et quand tu lis le livre de Peter, il dit souvent « C'est beaucoup Jacques ».
Par contre, t'as jamais eu envie, ou même Peter, de travailler sur le foot, ou c'était exprès, on vous a pas demandé, ou...
Non, vous étiez... disons les deux un peu quoi.
Ouais, ouais,
on
ne
nous a
ouais.
pas demandé parce que comme chez Adidas tout est très catégorisé.
Mais ça t'a jamais
encore aujourd'hui.
Ça t'a jamais donné envie quoi.
Si. J'ai fait beaucoup de foot quand j'étais encore en France.
Ok.
Okay. Pas mal de chaussures de foot.
Tu jouais quel poste?
Je parle de chaussures là. la dernière chaussure de foot que j'ai faite, c'était la chaussure de foot pour Porsche Design. Porsche Design Sport, donc on a voulu, disons, c'était un peu une lubie pour terminer la collaboration avec Porsche Design, c'était de faire quelque chose en foot. Et d'ailleurs, on avait comme joueur qui était prévu pour porter les chaussures, c'était Alonso, Xavier Alonso.
Xavier Alonso, ouais, c'est ça, ouais.
Du Bayern.
Du Bayern.
Quand il était au Bayern.
Ah, je comprends
Bayern.
Avec.
Oui, oui. Non, mais laisse le foot, Alex, laisse.
Oui, c'est pour mon fils, le foot.
Mais cool. Donc, et puis la dernière chaussure, c'était une inspiration de la Copa Mondiale, quoi. Parce que quand on parle foot, ma chaussure favorite, c'était et ça restera toujours la Copa Mondiale.
Forcément, 82.
Ouais. Chaussure en cuir de kangourou.
En cuir kangourou, oui, mais c'était une chaussure qui avait ce qu'il fallait comme feeling du toucher de balle, puisque c'était fait pratiquement une épaisseur de matière, à part les renforts qu'il y avait derrière, puisque le kangourou était le cuir le plus fin possible, mais le plus résistant aussi. C'est pour cette raison qu'on l'a utilisé en foot, parce que l'essentiel dans le foot, c'est surtout qu'on ressent le contact de la balle pour pouvoir diriger la balle. Et c'était un peu ça, voilà. Donc c'était une chaussure assez simple. C'était un peu le principe de base de l'équipement aussi, c'est l'essentiel, juste ce dont tu as besoin pour pratiquer le sport, quoi.
Equipment, je pense qu'on en entend pas mal parler en
2025. On va en entendre parler en 2025.
Ouais. D'ailleurs, il y a un bouquin Equipment.
Attends, vas-y, viens. Ouais, parce que là,
Jacques, tu portes quoi ?
Alors, je porte aujourd'hui des Adidas, des Running, Adizero SL. Et j'apprécie très bien, beaucoup le confort.
Ouais.
Et le chaussant aussi.
Et tu sais que sur cette chaussure, en fait, c'est pour couper, mais genre, c'est le mèche à la base, c'était moi qui l'a créé. Ensuite, c'est la collègue qui l'a repris.
Incroyable.
Ben voilà, quelle copieuse.
Incroyable.
Tu touches des.
Je vais enfin donc, le dire à la radio.
Ah ben voilà, tu peux. Génial. Toi, t'as dit, Jacques a dit, on passe à Krish. Tu portes quoi ce soir? Mais je crois que c'était presque annoncé dans l'émission.
Je porte la paire de Travis Scott, donc Air Jordan 1 Low, celle qui est sortie donc il y a pas très longtemps, c'était il y a 10 jours.
Ouais, mi-décembre.
Ouais, c'est ça.
19,
donc ça. Sur le coloris. Comment on appelle le coloris? Il
brown.
Porte un nom précis. Non, il porte pas le nom brown, mais Velvet Brown.
Velvet.
Velvet Brown. Donc avec le petit lacet en rose. Donc très content d'avoir copé la paire. Donc deux anecdotes sur ça. C'est la deuxième fois d'affilée que je cope sur SNKRS.
Toi, tu joues rarement.
C'est deux fois d'affilée que je gagne. En plus, je joue avec mon adresse mail adidas.com. C'est ça qui est génial. Donc, je me fais tirer au sort sur SNKRS avec mon adresse adidas.com. Et l'autre anecdote, c'est pour ça que rien ne va plus en 2024. Et l'autre anecdote, alors c'est pas une anecdote, c'est un ressenti, c'est que c'est dégueulasse en termes de confort. Voilà, je voulais juste dire.
Les basses,
Travis,
ouais.
Si tu m'écoutes.
Non, c'est la Jordan 1.
Ah, mais faites juste un truc, mettez un peu de rembourrage en l'intérieur, faites quelque chose, mais c'est beau, mais c'est pas confort.
C'est pas ouf. Et ben moi, j'aurais voulu la présenter, c'était mon dernier achat 2024, mais elle arrivera que dans la semaine, c'est la Salomon Kiss qui moi m'avait fait de l'œil, que j'ai cop. On l'avait annoncé dans la story, mais on les a pas encore cette semaine, mais vous allez retrouver celle de Krish tout de suite dans la story. Quant à moi, Je porte aujourd'hui une Adidas Basketball de Jerry Lorenzo, Fear of God, première version achetée à Oppenheim à un prix assez raisonnable par rapport au prix de vente original. J'aime beaucoup. Et toi, mon ami, que portes-tu ?
Là, j'ai une paire de Jordan 3 Steals. Ça fait très 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 longtemps que je les avais pas portées. Elles étaient sorties en 2011. Je les avais chopées chez Urban Shoes, Big Up Fares. Et voilà, c'est plusieurs nuances de gris.
Ouais.
Il n'y en a pas 50, mais il y en a quelques-unes quand même. Parce que je suis habillé en gris, bien évidemment. Mais sinon, ouais, c'est une paire pas confort du tout, parce que c'est une demi-taille en dessous de ce que je mets. Enfin, une taille en dessous. C'est du 41, donc j'ai dû enlever la semelle. Aïe. Parce qu'il n'y avait plus ma taille quand je l'ai acheté à l'époque.
Ouais, moi, voilà. C'est une des premières que j'ai revendues, la Steals.
Et je regrette pas de ne pas l'avoir vendue, parce qu'elle est magnifique.
Ouais,
franchement, c'est, final, ouais. Elle a bien vieilli.
Complètement.
Enfin, en termes de colorway.
Ouais, complètement.
Parce que sinon, le Durabu qui est un peu, rigide. Un peu craquelé. Quoi.
Ouais, tu m'étonnes.
Ouais.
Tu m'étonnes. Voilà pour. Non, Raph nous a pas dit ce qu'il portait. Tu portes quoi, Raph ?
On est prêt. C'est bon, t'es prêt, Krish. Alors, moi, ce soir, je porte une Jordan 7 Bordeaux, qui est en référence au vin que j'ai appris ici dans cette émission. Donc, écoutez cette émission, vous apprenez des choses. Et c'est l'édition 2015, parce que j'avais celle d'avant, qui était complètement défoncée. Donc j'ai pu la trouver, celle-ci, à pas cher, à la consigne. Big up à Léo et à toute la team de la consigne store d'ailleurs. Et voilà, donc ça fait toujours plaisir, il y avait de superbes occasions, vraiment tristes pour eux.
Petite anecdote, c'est la paire dans laquelle, que vous pouvez apercevoir dans ce superbe clip qui s'appelle Jam de Michael Jackson, où on aperçoit Michael Jordan et Spike Lee. Juste, le clip est cool, le son est dingue, donc il faut le voir. Et c'est comme ça que j'ai découvert.
C'est là où il a la chemise orange et le t-shirt blanc en dessous.
Waouh, belle question.
Moi, il me semble.
Voilà, regardez tous le clip et envoyez-nous vos réponses sur Instagram, ouais, directement.
Qu'est-ce qu'on gagne ?
Vous gagnez ma reconnaissance éternelle et une dédicace à la prochaine émission.
Ah, la dédicace, ça fait plaisir. Voilà, je vous ai noté une petite actu qui est sortie au niveau des stats par rapport à Sneakers SNK RS, où Krish a réussi à choper cette Jordan 1 Travis. Et ben, le top des releases de cette année, là où il y a eu le plus d'inscriptions, c'est d'abord et toujours une Travis Scott, c'était la Olive, qui était sortie où il y a eu le plus de gens qui sont inscrits. La deuxième, c'est celle que porte Krish, la Velvet Brown. La 3, j'étais assez étonné. La troisième, et ben c'est une Jordan 4, et c'est la Jordan 4 Bread réimaginée, qui est arrivée en quatrième, en troisième, et en quatrième, c'est ça qui m'étonne, parce que pour moi, c'était vraiment la nouvelle silhouette de chez Nike. C'est la Nike, la CJ1 T-Rex, le nouveau modèle Jumpman qu'a sorti Travis Scott. La numéro 6, on est sur encore une Travis Scott, une Jordan 1 Low. La numéro 6, c'est une Jordan 4, la bleue, Military Blue. Et après, on a la toute dernière, la numéro 10, j'en saute quelques-unes. T'as la 8, t'as la Futura, la Dunk, t'as la Jordan 1 Trophy Room. Et la 10, que moi je trouvais très réussie, la Jordan 3 Balvin, coloris Rio. Voilà pour les meilleurs, là où les gens se sont le plus inscrits sur l'application SNKRS, en espérant d'être
c'est
attiré
juste
au sort.
Les sneakers Nike, ou c'est
ouais,
de
là,
mondial
j'ai stats.
Ah ok, alors il faut bien préciser.
Pardon Jacques.
D'accord, parce qu'il n'y a pas que Nike, hein, il y a d'autres marques.
Non, il y a d'autres marques, voilà. Mais il n'y a que Nike qui sort ce type
de listing.
Ouais, de ça. Listing, et je ne suis même pas sûr que ce soit un listing Nike, parce que moi je l'ai retrouvé sur des sites qui surveillent avec des robots les inscriptions, okay. Des choses comme ça.
Ouais, parce que la plus cliquée cette année, ça doit être une gazelle ou une spéciale, c'est pas possible.
Ouais,
ouais, clairement.
Ouais, là, c'est le plus d'inscriptions sur l'application SNKRS.
Ok, ok.
Mais ce qui donne une tendance chez Nike, de ce qui marche, et on se rend bien compte que c'est Travis qui cartonne.
Qui mène le game.
Ouais, et on est d'ailleurs, tiens, ça peut être la dernière stat que je vous donne avant de passer à la suite. Tu vois, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 10 qui sont des collabs et qui ne sont pas des rééditions de modèles originaux.
Okay.
Ouais. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant, bien que la Jordan 4 Military Blue, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. La bleue.
La bleue, ouais, Military, ouais.
Ce que je confonds avec la True Blue, qui est la 3, c'était le nom du colorway de la 3. Il y a que celle-là et la 4 réimaginée qui font partie de ce listing. Bon, la Trophy Room, ouais, elle est un peu comme la normale, mais ça reste une collab, quoi. Donc, et la Pro Tro de chez Kobe, qui pour moi n'est pas non plus une collab. 3 sur 10 qui ne sont pas des collabs. Ça donne un peu la tendance du marché, et c'est sûr que le marché est très porté par les collaborations. Vite, rapidement. On est bien dans le timing, messieurs. Vous voulez réagir là-dessus ? On s'en fout.
Non, on s'en fout.
Allez. Hop. Celle-là, elle me plaît beaucoup. Elle m'a fait pas mal d'œil. Ça sort le 10, c'est dans 3 jours. C'est la marque à 3 bandes. Vous me donnerez votre avis. C'est enfin, et moi je le regrette parce que ça faisait longtemps qu'eux, ils étaient plus en collaboration avec Nike, mais là ils sont en collaboration avec Adidas. J'ai toujours adoré les motifs Liberty London, qui sont des motifs plutôt féminins, très très réussis. Et là, Nike s'associe à Liberty of London sur une Adidas Gazelle qui est assez magnifique.
Attends, faut que je te reprenne. Parce que t'as dit Nike s'associe avec Adidas.
J'ai dit Nike ?
Oui.
Non, c'est...
Reprends ta phrase.
Je refais. Wow. On pourra couper au montage ?
Oui, on peut couper au montage.
Allez, Liberty London s'associe avec Adidas sur cette gazelle. Ça sort le 10 au prix de 130€. Elle est splendide. Semelle de contact gomme, un peu transparente, ce qu'on retrouve sur pas mal de gazelles. C'est, je trouve que c'est assez réussi, ça.
C'est la... Oui. C'est l'original.
Oui. C'est l'original, ouais, qui était indoor, non ?
Oui, c'était la couleur utilisée sur toutes les chaussures en indoor, puisque à l'époque, en indoor, les semelles colorées étaient interdites parce que ça laissait des traces. Et ce qui fait avec le coloris gomme, c'est-à-dire ce coloris un peu caoutchouc d'origine, quoi, ouais. C'était autorisé. Quoi.
C'était autorisé, ça ne marquait pas. Mais même nous, à l'école, hein, il y avait marqué patins anti-traces, etc. Et sur plein de baskets, on retrouvait cette mention. Je trouve cette gazelle très, très réussie. Liberty of London, ça vous plaît ?
Moi, ça me plaît. Ça me rappelle un peu quelque chose. Ça me rappelle un modèle de Y3. C'était, je ne sais plus en quelle année, c'était un genre de taekwondo. Et il y a eu une version un peu florale qui est sortie de l'époque.
Oui, je vois tout à fait.
Je ne sais plus quelle année que c'était, c'était un peu ce modèle slip-on taekwondo, quoi, style taekwondo.
Je me demande si c'était pas, on n'était pas en 2008-2009 taekwondo chez, ouais, je pense, c'est possible. Mais en tout cas,
c'est pas beaucoup plus ancien.
C'est possible.
Mais en tout taekwondo, cas, moi je peux vous dire 2003, que j'ai travaillé 2005. Dessus sur la taekwondo Adidas.
Ah ouais ?
Oui, l'original. C'est-à-dire que le modèle taekwondo d'origine venait d'Asie, mais était avec une semelle toute fine, puisque en taekwondo, il faut avoir le contact au sol maximum. Et avec Adidas Japon, on voulait en faire une chaussure à porter un peu en street, quoi, à l'extérieur. Et donc, finalement, tout ce que, on a changé un peu le côté, la languette, qui est overlapping, et le côté, on a rajouté un espèce de talon, une talonnette, un biseau en EVA, pour amener un peu de confort et puis garder toujours un peu l'idée de flat sole, mais près du sol. Quoi. C'est devenu la taekwondo. Et je me souviens, entre autres, avoir eu une grosse bagarre avec, au niveau juridique par rapport à tous les fabricants asiatiques qui faisaient les taekwondo de l'époque. Et donc, pour vraiment trouver argumenter la différence par rapport
à leurs chaussures.
À leurs chaussures, oui.
Ouais, et ben, pour l'anecdote, moi, je pense que c'était... Toi, tu daterais ça à quelle époque, Jacques ?
J'étais encore en France, donc c'était peut-être fin des années 80. C'était, je sais plus exactement, peut-être 87, etc.
Mmh. Oui, ça a été réédité. Moi, je me rappelle, dans les années 2000, c'était assez tendance. On avait beaucoup ces chaussures très, très fines, comme pouvaient l'être les Sparkle.
Oui, c'était Y3, comme j'ai dit avant, qui avait repris un peu cette idée. Quoi.
Et ils avaient fait... des modes. Hein. Hein, c'était pas la meilleure des modes.
Bah ça revient. Hein. J'étais à Paris.
Taekwondo, box, tout ça.
Ça Paris. Revient, box.
Ouais, le boxing. Non, moi, mais... j'étais à Paris justement le week-end du 20-21 décembre, là, juste avant Noël. Et il y a pas mal de shops parisiens qui effectivement mettent en avant les boxing shoes, les taekwondo, ce qu'on appelle les low profile shoes. Et ça revient fort, quoi.
C'est regarde dur. Puma, là, moi je trouve que Puma,
la Monstro,
et
la Speed 4.
Merci Speed 4, je trouvais pas, j'appelle ça la Sparko, hein, elle revient de ouf. J'ai vu chez beaucoup d'influenceuses, etc.
Il y a beaucoup de gens qui disent que justement la Speed 4 va concurrencer Spécial, Gazelle, etc. etc. Tu vois.
C'est pas le même shape.
C'est pas le même shape, mais c'est la même tendance.
Ouais.
Tu vois, on est sur le même train.
Il y avait d'autres marques là qui faisaient des trucs taekwondo, je sais plus comment ça s'appelle, des trucs de fashion.
Feiyu.
Voilà.
Ouais.
Feiyu, ouais.
Mais ça doit pas revenir, les gars.
Non,
il faut pas. Déjà, cette mode, normalement, ne devrait pas revenir. Mais non, mais
il faut pas.
Il faut se concentrer. Parce que là, il y a un gars, il va se dire, ouais, je vais racheter Feiyu, ça va marcher, c'est le moment.
Écoute, on sait pas. Il y a bien des mecs, je sais pas. Moi, je suis plus étonné de plus rien, quoi. Donc, donc
ouais, vois. Mais à un moment faut se respecter un peu dans le style. Ouais, mais le... pas.
Ça revient. J'aimerais bien savoir moi, qu'est-ce que t'en penses justement, Pauline, de tous ces low profile shoes en tant que fille. Est-ce que c'est un truc qui te parle là, parce qu'on était longtemps pendant, tu vois, sur des dad shoes running. Mais est-ce que là, est-ce que toi ça te parle là, ce genre de profil?
Oui, ça me parle parce qu'en ce moment aussi, c'est ce qu'on, tu sais, quand on est chez Adidas, on travaille 2 ans à l'avance. Donc je sais aussi, genre, ça reste dans la conversation. Et tu vois, genre, t'avais toujours le super high tech, et maintenant, genre, il y a une tendance chez les filles d'être plutôt low profile. Donc en soi, ça marche assez bien.
Mais est-ce que ça te plaît?
Ça dépend le type de modèle,
okay,
et le style que tu veux donner, tu vois.
Ok.
Ça dépend, genre, de tout le outfit que tu mets, c'est pas juste la chaussure.
Après, en termes de confort, je pense qu'à mon avis...
C'est un peu... C'est genre, niveau confort, c'est moins de confort que si tu prends une running, tu vois.
Bah, ça,
c'est
ça, ça, on... que tu perds. Ça, là-dessus, je pense que même une Stan est 1000 fois plus confort qu'une...
Ça, c'est pas sûr.
Pro, j'en suis sûr que c'est pas sûr.
Non, mais c'est bien, t'as évité de dire que c'était moche. J'apprécie le côté diplomate.
Ce que je vois à Paris, c'est que la, pour moi, la, c'est la samba. C'est la, mais la blanche et avec les bandes noires qui est la, disons, c'est l'origine.
Ouais, ouais, bien sûr.
Noir et blanc, noir et bande blanche.
Bien sûr.
Et toutes les autres couleurs. J'étais hier au magasin Opéra, là. Il y a les trois quarts du mur avec les chaussures, c'est gazelle, samba, spécial. Et voilà, c'est tous les coloris que tu, possible. Mais quand tu vois, regarde un peu dans la rue, c'est quand même, je trouve, c'est quand même, au niveau des femmes, c'est quand même la blanche avec les bandes noires.
Ouais. Ouais, c'est marrant, alors que tu pourrais trouver des alternatives un peu plus funky, un peu plus sympa.
Oui, mais ça, c'est aussi parce que les gens cherchent toujours l'identité de la marque. Et l'identité de la marque, je pense que c'est la samba comme elle a été faite au départ. Voilà.
Ouais, c'est trop
quand tu prends une Stan Smith, c'est pareil. Tu peux faire 50 000 couleurs autour, 50 000 variations. Bah, à la fin, tu reviendras toujours au truc, au premier. Ouais, tu en vendras, bien sûr, des variations, mais bon, ça restera toujours la base, ce qui représente le mieux la marque.
Merci Jacques. Bah, je vous propose d'enchaîner avec le prochain release de la semaine que j'ai retenu, et je l'ai retenu pour notre pote Manu, habillé quasiment que en noir, hein, aujourd'hui. Je
du
crois
gris,
que tu l'as déjà.
Du gris.
Anthracite. Hein.
Ouais.
Et voilà, parce qu'ils ressortent la Jordan 3 Black Cat.
Mon Dieu, la mon Dieu.
Full noir avec un peu de vernis sur la partie intermédiaire. J'ai tout de suite pensé à toi. Les photos qui ont l'air d'être sorties, elles ont l'air assez jolies. Hein, Black Cat,
Cali, ouais.
C'est plutôt ouais, un grand classique de chez Nike. Parce que Michael Jordan aimait beaucoup, c'était son surnom, le Black Cat. Et ils ont sorti pas mal de modèles en full noir à son effigie.
Bah, la 4 Black Cat avait hyper bien marché quand elle est sortie. Enfin, quand elle est ressortie là il y a quelques années, mais ouais, cette Jordan 3, alors celle que j'ai, c'est 2007, donc ouais, elle était sortie en 2007, elle tient super bien,
ouais.
Et là, je la vois, je me dis que j'ai pas de thune, donc ça me saoule, mais ben non, mais ils saoulent, les mecs ils te ressortent des trucs, t'as envie de les acheter, mais arrêtez avec vos prix,
ouais, 200, ça met 220, 210, ça 220 mal. Balles. Ouais, ça fait.
Et un truc cher. Aussi qui m'a piqué, c'est que je l'ai vu sur Fortnite. Tu peux l'acheter sur Fortnite. Ouais, ouais, ça fait.
Avant, sur Fortnite, avant l'annonce.
Mais c'est pour ça qu'ils sont malins. C'est parce que ils te la sortent sur Fortnite. Sur Fortnite, toi, t'es hypé. Les nouvelles générations qui connaissent pas Jordan, ils sont hypés aussi. Alors qu'à la base, ils sont.
Regarde, il y a des trous.
Ah, mais tu regardes, je l'ai maintenant sur Fortnite. Il me la faut en vrai aussi.
Payé que 8 euros.
Voilà. Sauf que dans la réalité, c'est 220 balles. Et ça saoule, quoi.
Et est-ce que tu vas l'acheter à 8 euros sur Fortnite?
Non, je te cache pas que j'ai été tenté. Hein. PayPal ready, comme toujours. Mais non, non, je refuse de commencer dans ce genre de truc. Mais ouais, clairement, c'est un beau modèle. Il passe partout. J'ai pas encore vu à quoi il ressemble. D'ailleurs, elle sera disponible chez nos amis de B4B.
Ok,
voilà, ouais.
Allez, checker ça. À quoi ça ressemble.
Ouais, exactement. Et. J'attendrai de voir, parce que ça se trouve, hein, ça va être un flop comme beaucoup de Jordan rétro, et elle sera encore disponible, et elle finira peut-être en solde. Mais ouais, je sais pas, on verra, peut-être que je gagnerai au loto d'ici là et que je l'achèterai.
Mm-hmm.
Ouais, parce qu'il me faut au moins le loto, le reste.
Pour acheter tout ça. Bah voilà, sur la Jordan 3 Black Cat, full noir, qui sort cette semaine, je crois que c'est ce week-end, plus précisément. Bah, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission avec notre invité, nos invités, Pauline et Jacques, qui sont là, parce qu'on va un peu parler de ton métier, de design, de ton parcours, Pauline. On a pu te rencontrer il y a quelques années, il y a plus de presque 3-4 ans quand tu étais venu à l'émission, tu commençais chez Adidas, bah, c'était l'occasion de t'avoir dans la région pour reparler de tout ça et un petit peu de ton parcours. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous re-raconter comment tu t'es révélé au design et qu'est-ce qui te plaît dans le design de la sneakers?
Okay, ouais. Ah ouais, là ça remonte.
Ça remonte un peu, ouais.
Genre, ce qui m'avait toujours genre fait passionner, c'était genre, j'avais un prof une fois en cours, il m'avait dit genre, vas-y, dessine des chaussures. Donc c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser à la chaussure. J'étais toujours entre la chaussure et l'automobile, mais c'est la chaussure que j'ai préférée le plus. Et ensuite, genre après, je suis allée dans une école en Allemagne, genre Hochschule Pforzheim, qui avait des bons liens avec les entreprises genre Adidas, Puma. Donc c'est ce qui m'a donné envie d'aller là-bas. Et après l'école, genre, j'ai fait différents stages. Et j'ai toujours voulu aller chez Adidas, donc à travers ça j'ai commencé via un stage. Et ensuite j'ai intégré l'équipe Adidas Running en créant maintenant des chaussures pour courir.
Ouais, tu peux peut-être expliquer, alors je pense que c'est pareil dans plusieurs typologies d'équipementiers, mais tu as des sections de design en fonction de l'utilisation de la basket. Tu auras du running, tu auras du Adidas original, tu auras du Adidas montagne, etc.
T-Rex. Adidas merci. Outdoor, ouais.
Outdoor, c'est ça que je cherchais, t'es vrai.
Et...
Ouais, donc c'est subdivisé.
Oui, c'est subdivisé. Et ouais, c'est comme une mini-entreprise dans la grande entreprise. Et donc en stage, c'était outdoor où j'étais. Et maintenant, c'est running. Donc j'ai commencé en tant qu'assistant designer footwear. Et maintenant, genre, je suis footwear designer en running, en continuant. Et dans running, c'est encore une fois subdivisé.
Ok.
Donc c'est très, vu que comme Jacques l'avait dit, c'est très catégorisé. Donc ouais.
Moi j'aimerais juste revenir un petit peu dans le passé parce que effectivement tu dis que tu as une prof qui t'a demandé de dessiner de la chaussure, mais est-ce que à la base déjà le dessin c'était un truc qui te passionnait, t'aimais le dessiner, et finalement pour quelle raison ce prof te demande à un moment ou à un autre de dessiner et à quel moment tu t'es dit putain c'est génial ce que je fais, j'aime bien?
J'ai toujours voulu genre dessiner depuis que je suis petite, genre ça avait commencé au collège, je dessinais genre des graffitis et tout ce qui était street art, streetwear, et ensuite par rapport à l'école, c'était plus parce que l'école avait les relations avec Adidas, donc okay. Souvent on faisait des projets. C'est pour ça que le prof, il a dit, vas-y, vous dessinez pour cette marque.
Okay.
C'était vraiment le côté relationnel qui était venu.
Ok, et finalement ça t'a plu et tu t'es dit...
Ouais, j'ai kiffé dessiner des chaussures et si bon, on peut être payé pour faire ça.
Et aujourd'hui, il y a d'autres choses que tu auras envie de dessiner?
C'est ce que je suis en train de réfléchir dessus. C'est une grande question. Mais peut-être aussi, genre, tout ce qui est architecture d'intérieur m'intéresserait beaucoup. En fait, d'autres domaines du design que la chaussure.
Parce que finalement, bon, c'est une question que je peux poser aussi à Jacques, mais est-ce que c'est facile finalement de passer de designer footwear à designer apparel? Donc, est-ce que c'est facile, pardon, pour les auditeurs de passer de designer une chaussure à designer du textile, ou pourquoi pas de designer une chaussure à designer justement un mobilier, une chaise, tu vois, est-ce que le passage de l'un à l'autre est compliqué, quoi? Tu peux, ouais, si tu veux, Jacques.
Je ne veux pas dire que le passage est compliqué, mais je pense que quand on décide de faire du design dans la chaussure, il faut qu'on se crée une espèce d'affinité pour le produit qu'on veut designer. C'est-à-dire que si on n'accroche pas, si je dis je veux créer, moi, de toute façon je n'utilise pas le mot designer, j'utilise toujours le mot créer.
Okay.
Ou je crée une chaussure, dans ce cas j'ai une certaine affinité pour le produit que je veux créer. C'est-à-dire que moi j'ai commencé, j'étais... Pas tellement basé en focus dessin, c'était plutôt la chaussure. J'avais une certaine collection de chaussures, j'ai commencé dans la chaussure de ville, j'ai essayé de comprendre un peu comment fabriquer des chaussures, j'ai fait tous les sous-métiers de la production d'une chaussure de ville, mais mon rêve était de rejoindre Adidas parce que j'estimais à l'époque que la chaussure de ville c'était un peu, comme on dit en anglais, boring, c'est-à-dire que c'était un peu, entre guillemets, un peu emmerdant, alors que le sport était beaucoup plus réactif, était beaucoup plus, disons, on pouvait explorer beaucoup plus facilement tout ce domaine-là. Et c'est pour ça que mon rêve, c'était de rejoindre Adidas. Et quand j'ai pu rejoindre Adidas, c'était finalement ce que je voulais faire. Et je me suis éclaté beaucoup dans ce domaine-là, mais naturellement pas dans toutes les catégories. C'est-à-dire que j'avais des préférences pour le running, j'avais des préférences pour le tennis, pour le basket, etc. D'autres sports m'ont pas tellement branché entre guillemets. Maintenant, je peux dire que j'ai un peu raté ma carrière dans le sens où mon but au départ c'était tu parlais d'architecte, etc. Je voulais faire de l'architecture. J'étais parti là et chez moi j'ai un peu pas mal de bouquins sur l'architecture et c'était un peu ça mon côté disons l'objectif à l'époque. Bon, ça s'est pas fait pour certaines raisons, etc. Mais il y a pas à le regretter, mais c'est un peu
non ne regrette
pas. Mais il y a toujours le côté, il y a bien sûr le côté dessin, mais il y a aussi le côté créativité, c'est-à-dire on peut faire moi j'ai toujours dit à mes designers, vous pouvez faire des très beaux dessins. C'est des œuvres d'art, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le dessin ? Quel est le contenu créatif de ce que tu Bien proposes sûr. Dans ton dessin ? C'est ça qui est très important.
Et par rapport à ça, j'avais justement une question pour toi encore, Pauline. Jacques vient de parler de dessin. Quand tu te retrouves pour la première fois devant ta feuille blanche et qu'on te demande de créer une chaussure de running pour tel runner, qu'est-ce qui t'aide finalement à créer ton dessin ? Et finalement, c'est quoi les premiers traits que tu mets, d'où vient ton idée, tu vois, d'où vient ta créativité finalement sur cette feuille blanche, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime, je sais pas, la musique, t'as vu quelque chose dans la rue, tu t'es dit tiens, je vais le mettre sur mon papier, tu vois, est-ce qu'il y a un truc qui aide à ta créativité, quoi.
Souvent, genre, c'est visiter, genre partir, sortir dehors. Okay. Parce que quand t'es chez toi, genre ça m'inspire pas. Et c'est alors s'intéresser depuis d'autres domaines, genre l'architecture, la mode. Genre dans les innovations techniques, et genre tu prends ce qu'il y a là, et alors souvent tu fais des liens en fait dans ton cerveau entre point A, point B.
Ok.
Donc souvent c'est ça.
Et finalement, entre le moment où tu t'es dit tiens, je vais penser à ça, et le truc final, est-ce que tu revois cette première idée ou pas dans la chaussure ? Ou des fois t'es finalement allé à l'opposé de ce que tu voulais faire, quoi ?
Non, des fois ça va à l'opposé totalement. Aussi, quand tu travailles pour une entreprise, tu as tellement d'opinions qui viennent, donc à force, l'idée aussi, elle change au fur et à mesure. Et c'est rare que maintenant, quand tu crées, que tu crées à partir de rien, parce que tu reçois un brief du marketing, et souvent, tu as déjà un peu une silhouette établie, que tu continues à travailler dessus.
Et ce que je trouve fou, tu vois, c'est que... forcément, mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'on a en gros dans le studio, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais l'ancienne génération et la nouvelle génération. Moi, j'ai l'impression, Jacques, que ta génération, c'était... il fallait créer une paire de chaussures et on partait de rien. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le marketing qui va dicter finalement ce qu'on doit créer et de quoi on a besoin. Et finalement, là, tu vois, la notion de créativité, la notion de besoin, elle est plus du tout pareille, quoi.
On dirait que ça fonctionne dans l'autre sens, en fait.
Mais c'est exactement ça. Ouais.
C'est exactement ça. On veut créer un produit pratique et ensuite on le market. Et là maintenant, c'est on a une idée marketing, il faut qu'on la rende concrète.
Exactement.
Tu le ressens, Jacques ? Et Pauline ?
Jacques, il est triste, ça se sent.
Non, moi, je peux me baser sur mes années à moi. Et moi, disons, à l'époque, on n'avait pas les meilleures chaussures. De toute façon, vous prenez toutes les chaussures Adidas, les best-sellers n'ont jamais été faits sur des produits briefs. Je prends une Superstar, je prends une Stan Smith, je prends toutes les chaussures, même la Forum. C'est un espèce de, en anglais on dit un gut feeling. C'est-à-dire en tant que designer ou créateur, il faut pas uniquement être dessiné, il faut être un peu marketing aussi. C'est-à-dire le premier client, c'est le consommateur pour qui tu vas faire la chaussure. C'est-à-dire moi, ce que j'ai fait, par exemple, pour le basket, j'ai regardé un peu le basket de l'époque, début des années 80, comment ça se faisait. Je m'étais fait un dessin même du terrain, et je positionnais les joueurs, et j'essayais de comprendre quel était le rôle de chaque joueur. Et ensuite, j'essayais de voir, tiens, mais qu'est-ce que Adidas a comme produit à lui offrir à cette personne qui fait ce jeu-là, le meneur, l'autre qui est sous les paniers, le dunker, etc., etc. Et ensuite, finalement, à la fin, quand tu regardes la collection, tu fais un point, et tu dis, tiens, il me manque une chaussure pour ce gars-là, il manque une chaussure pour ce gars-là, et c'est un peu comme ça que la Forum a été faite. Hein. J'ai un peu, on avait la Top Ten à l'époque. La Top Ten, c'était plutôt pour le meneur, c'est-à-dire c'est une chaussure qui était très au contact du sol, très légère, très flexible.
C'est souple. C'est, ouais.
Voilà, et c'était pour le gars rapide qui changeait de direction sans arrêt, qui organisait le jeu. Mais il n'y avait pas de chaussures pour les mecs qui étaient sous le panier, qui récupéraient les gars qui avaient besoin de stabilité, de maintien, de protection. C'est comme ça que la Forum a été créé. Donc j'ai finalement deux propositions qui sont faites par la marque pour deux types de joueurs qui sont sur le terrain. Quand Peter Moore a fait la Air Jordan 1, Jordan jouait à l'époque avec la Forum, il est venu, il a dit à Peter, tu me fais la même type de chaussure pour que j'ai la même sensation.
Ouais.
Et là, il a parlé de ça. C'est important. C'est la sensation. Et pour un joueur de ce niveau-là, c'était un type qui était un peu unexpected, c'est-à-dire il était inattendu sur le terrain. Il n'était pas prévisible. Mais c'est un gars qui voulait absolument un contact assez proche du sol pour qu'il puisse changer de mouvement, de direction, etc.
J'ai toujours la chair de poule quand Jacques parle de Peter Moore et de Jordan comme si c'était, tu vois.
Non, mais si on parle de process, quand on commence à faire avoir des idées, alors c'est un peu un gros cirque au départ. Hein. Enfin, du moins pour moi, c'était ça. C'est une grande feuille de papier, tu mets tout plein de trucs qui se passent par la tête en fonction du consommateur potentiel qui peut être l'athlète de haut niveau, qui peut être entre guillemets l'athlète consommateur extérieur. Et une fois que tu as toutes ces idées, moi j'avais toujours le problème, c'est que je ne savais plus quoi faire après. Parce que et il faut, dans la phase design, dans le design process, tu as toujours une phase d'évaluation. C'est-à-dire tu peux avoir 50 idées, mais tu ne peux pas mettre 50 idées dans une chaussure. Donc il faut que tu sois capable d'évaluer quelle est la meilleure, quelle est celle qui est moins, qui ramène le moins. Et à la fin, tu te fais une espèce de ranking en disant l'idée la plus importante, c'est celle-là. Et ce n'est pas uniquement au niveau des bénéfices, mais aussi au niveau de la visualisation. Comment tu vas visualiser cette idée dans le produit ? C'est ça qui est important. Moi, mon inspiration, c'était moins côté musique ou autre chose. Moi, mon inspiration, ça a toujours été le sport en lui-même. Et quand tu, encore une fois, je reviens à mes années, ce qu'on faisait, on faisait les vidéos sur stop motion. C'est-à-dire que on avait la vidéo du joueur, par exemple, en basket, et ensuite on coupait chaque séquence pour voir les différents mouvements. Et là, tu peux voir aussi quels étaient les problèmes. Par exemple, en basket, le mec, quand il changeait de direction, tu avais pratiquement son pied qui passait par-dessus la semelle. Et donc, ça voulait dire que là, il y avait un problème qu'il fallait résoudre. C'est pour ça que après les semelles sont venues, les chaussures avec des renforts sur le côté, les semelles qui montaient, etc., etc. Donc tous ces côtés-là permettent de voir un peu et le mouvement aussi de l'athlète définit des lignes. Par exemple, si tu parles running pour moi c'est vitesse, hein, c'est maintien vitesse et puis c'est un sport linéaire, c'est-à-dire que tu vas dans une direction et donc tu essaies de faire des lignes qui correspondent à la vitesse et la vitesse c'est fluide, donc ce sont des lignes plus ou moins qui sont assez fluides. Le basket c'est un sport aussi bien linéaire que latéral, donc c'est un peu plus lourd, un peu plus robuste. Et donc là tu peux sortir un peu des lignes des lignes fluides qui te donnent des lignes un peu plus protectrices, stabilisatrices.
Voilà. On a de beaux exemples dans la story de ce qu'on porte, entre ta paire très running qui est hyper fuselée, vachement linéaire, et la paire b-ball old school de Manu. On voit vraiment bien ces différences.
Moi, pour enchaîner, la petite question que j'avais, c'était si Pauline peut me rassurer, parce que dans le jeu vidéo, que je connais bien, les jeux vidéo, ils sont plus faits quasiment pour faire du jeu vidéo. Ils sont faits maintenant, ils se demandent d'abord à qui on vend ce jeu, et qu'est-ce qui va plaire, comment on fait le jeu autour de ça. Rassure-moi, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas que comme ça? Est-ce que tu fais pas un produit juste pour qu'il soit vendu? Tu mets quand même un peu du tien, tu mets quand même un peu de ce que tu as envie de mettre dedans.
Tu veux dire en tant que créateur?
Ouais, c'est ça, en tant que créateur.
En tant que marketing. Parce que le marketing, ils ont le consommateur.
Ouais, c'est ça.
Tu vois.
Mais je prends le milieu du jeu vidéo parce que je le connais bien, mais c'est tellement influencé par ça que maintenant les jeux vidéo n'ont plus d'identité. Et du coup, ils se retrouvent à faire exactement juste ce qu'ils veulent vendre à un public cible.
En gros, si je dois traduire la question à Pauline, parce que je sais comment Pauline a réfléchi, tu vois. Est-ce que le marketing te dit, Pauline, ce consommateur, il ressemble à ça, donc créer une chaussure, en gros c'est ça, et il faut qu'on la vende à ce consommateur-là. Ou est-ce que toi, finalement, t'as quand même, dans ton esprit créatif, le truc de te dire, bah ok, le consommateur, il est là, je dois vendre ça à ce consommateur-là. Mais par contre, moi, mon idée créative va plutôt s'orienter vers ce sens-là, quoi. Est-ce que tu respectes à 100% ce que le marketing te demande ou t'apportes ta touche Pauline quand même?
Non, j'apporte quand même genre ma touche. En gros, généralement, quand tu reçois le brief, après, genre, nous, en tant que designer, on regarde quand même à nouveau comment nous on voit le consommateur avec des autres images, des autres interprétations, parce qu'on a un autre œil que le marketing.
Exactement. Mais du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi, tu reçois le brief du marketing et tu te dis mais what the fuck quoi, qu'est-ce qu'il me raconte?
Souvent, ouais.
Souvent, genre tous les jours.
Et souvent, du coup, faut se reposer la question et genre s'asseoir avec eux aussi. Tu vois.
Et finalement, lors de ces meetings, est-ce que vous parlez le même langage? Tu vois, parce que finalement, toi, tu vas parler technique, technicité ou...
Non, en fait, notre rôle aussi, c'est d'expliquer le visuel parce qu'ils n'ont pas ce sens-là.
D'accord.
Et donc ça, c'est notre rôle où, face à eux, on doit essayer de leur montrer.
Et c'est facile ?
Non, c'est pas facile.
T'avais non, ça aussi, pas... Jacques, à faire ou pas du tout ?
Non, toi, t'es... Certainement un peu moins parce que, à l'époque, c'était pas trop marketing comme c'est aujourd'hui. Donc... c'était pas du tout pareil.
Et puis, mais
je pense, il faut absolument, même aujourd'hui, il faut absolument que le designer apporte sa personnalité, son identité dans le produit. Encore une fois, les idées qu'un designer peut avoir, il faut qu'il fasse tout son possible pour les défendre. Il faut qu'il prouve par A plus B que son idée... Bon, bien sûr, il peut y avoir des cas où il y a des problèmes de faisabilité, il y a des problèmes, etc. Mais c'est une espèce d'argumentation qu'il faut avoir. Et si éventuellement il y a un problème, il faut le reconnaître aussi. Mais il faut que, sur le produit final, il faut qu'on puisse dire que ce produit a disons, un peu le coup de patte du designer. Il faut que ça reste ça, parce que sinon on va devenir comme les jeux vidéo, etc.
Ouais,
et ça sert à rien. Et c'est un peu, je crois que c'est un peu la question qu'on peut se poser aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, etc. Et j'ai eu des discussions avec pas mal de designers qui commencent un peu à réfléchir et qui se disent, commencent à se poser des questions. Mais justement, c'est peut-être un truc aussi qui peut stimuler un peu les choses, c'est-à-dire que je pense aussi que le job d'un designer doit évoluer et évoluer avec ce qui se passe à l'extérieur, avec tous les tools qui viennent aujourd'hui. À l'époque, c'était l'ordinateur, c'était les 3D, la 3D, etc.
Toi, t'as commencé, il n'y avait pas du tout d'ordinateur.
Oui, il faut que le designer cherche. Il faut que le designer cherche dans les nouvelles technologies d'aujourd'hui sa place. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a des choses. Il faut. Si on veut parler de l'intelligence artificielle, il faut toujours essayer d'avoir la mainmise là-dessus. Parce que sinon, on perd un peu ce côté humain qu'on veut donner à un produit.
Et justement, par rapport à l'IA, t'en parles, et c'est vrai que c'est un sujet qui est aujourd'hui, maintenant, dans tous les domaines. Pauline, c'est quoi la part de l'IA dans ton travail? Comment tu l'utilises? Et est-ce que tu es capable de nous dire, dans 10 ans, finalement, c'est peut-être l'IA qui va tout faire de A à Z et toi, tu n'auras plus de... Est-ce que t'as un avis dessus?
Okay. Ouais, enfin oui, j'ai un avis dessus, mais je pense pas qu'il faut genre qu'on soit trop dépendant de ça. Parce que ça, c'est la jeune génération qui veut vraiment que l'AI, okay. Tu sais, tu fais plus rien et l'ordi va tout faire pour toi. Mais quelque part, il y a quand même ce sens. Donc en fait, moi, je l'utilise dans le travail où tu génères plusieurs images, mais tu vas pas les utiliser un à un. Genre, t'as peut-être cette partie qui est intéressante, okay. Qui s'est créée. Tu la photobashes, donc souvent genre sur Photoshop où tu mets plusieurs images ensemble et tu, à partir de ça, plus du coup, un outil pour t'inspirer.
Okay.
Ouais. Tu vois, avant, t'avais Pinterest qui t'inspirait, tu cherchais une image et ça venait plein d'autres choses.
Le faire creuser, ouais.
Bah, c'est un peu genre maintenant le même système.
Mais c'est d'accord. Un peu ce qu'on fait quand on rédige des textes ou des mails avec notre ChatGPT, tu vois. On va donner nos premières idées à ChatGPT. Sans nos idées, il produit rien. Il va nous faire une première proposition que nous, on enrichit. Et finalement, pour moi, cette IA, en fait, elle n'existe pas indépendante de l'homme. C'est l'homme qui crée un carcan dans lequel elle doit agir.
Ouais. Mais alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, tu vois, je sais qu'en tant que designer, tu as ce truc de j'ai un crayon dans la main, un stylo, et de ma main, j'écris et je fais quelque chose. Là, est-ce qu'on va systématiquement donner un prompt à l'IA pour nous sortir un visuel? Du coup, je vais extraire une partie de ce visuel et je vais le mettre là. Mais est-ce que finalement, ta main va continuer à travailler? Est-ce que ta main va continuer à dessiner?
Dans le AI que moi j'utilise, ce n'est pas un prompt, c'est genre t'importes quand même une image, un sketch que tu as fait à la base.
Donc, d'accord.
Donc à la base, il y a quand même genre, c'est pas juste...
Ça part pas de rien.
Ça part pas de rien.
D'accord.
Après, je pense qu'il y a des programmes qui existent pour, mais je ne les ai pas testés.
Mais du coup, comme... toi, tu challenges l'IA à partir d'un truc que toi, tu as dessiné.
Ouais, où j'avais une vision et genre, du coup, ça crée un shading, un effet, et ça, dans ton cerveau, okay. Ça te met une nouvelle idée.
Ok, super.
En fait, ça aide à avoir plus d'idées.
complètement. Et enfin moi je suis plutôt pas mal, moi je suis pas très dérangé par l'IA, parce que pour moi elle est liée à ce que nous on a en tête et comment elle va nous aider, que c'est qu'un outil d'enrichissement du travail et d'affinement du travail, mais sans ton impulsion,
oui,
d'origine.
Mais en fait c'est ça le truc, c'est-à-dire que moi je dans ma tête de non-designer, je pense que t'es un bon designer, peut-être dans le footwear aussi, quand t'as déjà un coup de crayon, une vision, et que tu sais mettre en ligne ce dont t'es en train de penser et réfléchir, ouais, tu vois. Et j'ai peur, moi, que dans 10-15 ans, en fait, tu puisses être designer sans avoir ce coup de crayon, tu vois.
Est-ce que déjà les iPads et les tablettes et les dessins sur ordinateur ont pas aussi enlevé ce coup de crayon? Il y a beaucoup de designers chez Adidas qui travaillent sur le papier. Pardon Manu, hein, j'étais...
Non, ça a pas... Enfin, quand tu utilises leur tablette, iPad, t'as quand même ton stylo.
Okay.
Ton coup de crayon, en soi, il disparaît pas. C'est juste d'une autre manière. Tu peux utiliser d'autres types de brush. Donc, ça, c'est plus que ça donne d'autres possibilités.
C'est complémentaire. Ça,
mais il faut pas en être dépendant. Hein.
Moi, j'ai envie de dire, faut vivre avec son temps. C'est comme moi au début, quand j'écrivais mes lettres de motivation à la main. Je faisais mes paquets par dizaines à la main. Et j'ai un pote, c'est une fois, qui me dit: mais t'es con, pourquoi tu les écris pas dans Word et tu te l'imprimes? Je dis: j'ai envie de montrer ma motivation, quoi. Et il m'a dit: faut vivre avec son temps, mec.
Après, genre, on parle beaucoup de l'IA quand on crée. Mais quand il s'agit après de la chaussure, quand elle part en production, là, c'est encore assez. Il n'y a pas d'IA, c'est encore des techniques très traditionnelles. Donc, il y a un jump qui manque entre les deux, je trouve aussi.
Ouais,
vas-y, parlons.
Je disais que la basket était très opérateur dépendant. Il y a plein de pièces à coudre, il y a plein de manipulations à faire. Je verrais l'IA peut-être plus en termes de production sur du textile. Tu vois, un t-shirt, la découpe, elle n'est pas aussi compliquée qu'une basket et des choses comme ça. Ce que j'aime aussi beaucoup dans la basket, c'est que ça reste très manufacturier, quoi. C'est un produit très manufacturier.
L'IA, c'est bête et discipliné. Si tu lui donnes pas d'ordre, il va rien faire, quoi.
Exactement.
Et si on prend par exemple ChatGPT, il met juste des mots les uns après les autres qui sont logiques. Lui, il n'a pas de logique. C'est juste qu'il va regarder celui qui est le plus logique à mettre après.
Et moi, je voulais rebondir, j'ai pas eu l'occasion de le placer tout à l'heure. Tu parlais d'architecture, Jacques parlait aussi d'architecture. Et quand vous avez décrit, quand Jacques a décrit comment lui, il observait le sportif, comment toi, t'as parlé des technologies, des choses comme ça, finalement, je trouve plein de points communs. Et puis Tinker Hatfield, on doit en trouver aussi, parce que lui était architecte à la base, et après, il est devenu footwear designer chez Nike. Et je me demande si Virgil Abloh n'avait pas aussi fait des études d'architecture.
Il me semble que oui.
Ouais, je crois qu'il y en a deux, trois. Et pour moi, l'architecture, c'est aussi un mélange de mettre en avant, enfin, d'utiliser des technologies, des techniques, que ce soit pour ton chauffage, ton gaz, etc. Et rendre tout ça harmonieux, comme une, finalement, un peu comme une basket. Tu as une technologie, une technique, il faut rendre ça harmonieux et utilisable au quotidien.
Oui, je pense aussi que... L'architecte, sa philosophie est de ramener des bienfaits aux personnes qui habitent dans un immeuble, par exemple. C'est-à-dire se sentir bien, l'espace,
pour lui,
l'aération, etc. Et finalement, ce que tu fais pour le sport, tu fais la même chose. Tu ramènes des bienfaits à l'athlète qui va porter ton produit. Pas dans le domaine de l'espace, etc., mais dans d'autres domaines de performance. Donc la finalité, l'objectif, c'est similaire, quoi.
Ouais, ça m'a fait tilt. Et j'ai encore une petite question. On en parle souvent avec Krish dans l'émission, avec les designers, les gens qui sont dans la production. Aujourd'hui, on sait que généralement, à ce jour, tu vas travailler pour une basket qui va sortir dans 18 à 24 mois environ. Est-ce que les délais étaient les mêmes à ton époque? Sur la conceptualisation d'une basket, ça mettait 2 ans à être produit et livré en Europe, ou est-ce que c'était très différent? Et je finis ça pour que toi, si tu puisses aussi répondre, est-ce que c'est une grosse contrainte d'être séparé aussi d'un endroit de production? Parce que Jacques, toi, t'as produit en Alsace, à Dettwiller, donc tes idées, tu pouvais le voir directement à la production.
C'est-à-dire on pouvait voir les idées directement sur des prototypes,
qui oui.
étaient donc puisqu'on Pardon, avait un atelier oui. qui était donc dans la journée on avait un prototype, etc. En ce qui concerne la production, le délai de mise en place dans un magasin, par exemple, c'était surtout des délais qui étaient dépendants des... On avait des périodes de test qui étaient très longues. Et donc, c'était surtout ça qu'il faisait. Donc, il fallait tester. Et puis, les technologies de l'époque au niveau de production, de faire des chaussures, n'étaient pas les mêmes que comme elles sont aujourd'hui. Donc, les délais étaient surtout dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs rounds, comme on dit, de tests. Donc, voilà.
Ouais, et toi,
de nos jours, c'est encore la même chose, mais je trouve que c'est un peu contraignant. Enfin, aussi, ça va changer parce qu'il faut être plus réactif par rapport au marché.
Okay.
On se voit qu'il y a un marché qui change très rapidement. Et ces phases de test, souvent, quand la chaussure maintenant est dehors, on se dit, ah mince, on aurait pu faire quelque chose de mieux. Dans le sens créatif. Enfin, ouais.
Oui, c'est vrai. Mais Adidas a essayé de faire, il y a 2-3 ans, ce qu'on appelle la Speed Factory. C'était justement, le but de ça, c'était pratiquement de tout automatiser pour être très réactif et venir le plus rapidement possible avec une nouvelle idée sur le marché. Seulement, finalement, on s'est rendu compte que c'était aussi très limitatif. C'est-à-dire que l'idée d'un designer n'était pas forcément faisable au niveau de cette Speed Factory. Parce que il y avait des contraintes. C'est-à-dire que finalement, moi, j'ai essayé de faire des produits à l'époque avec la Speed Factory. C'est pas moi en tant que designer qui venait voir les gars et qui disait, écoutez, les mecs, voilà la chaussure, il faut la faire comme ça. C'était l'inverse qui me disait, non, tu vas nous faire une chaussure maintenant pour qu'on puisse la fabriquer avec les éléments qu'on a. Et donc, t'étais limité au niveau créativité, quoi. Et je pense que c'est un peu ça pour cette raison qu'il faut être honnête, ça a été fermé. Ça n'existe plus. Parce que t'as beau faire des couleurs, etc., etc. Mais bon, aujourd'hui, le marché, au niveau innovation, demande un peu autre chose que juste faire des couleurs.
Pardon.
Mais c'est sûr que tout ce qui est production et tout ça, je crois que même dans le domaine du design, il y a la créativité, mais dans le domaine de la production, il y a aussi de la créativité à avoir. C'est-à-dire qu'aussi bien pour diminuer le temps de fabrication, diminuer le timing des opérations, etc., etc., pour justement réagir le plus vite possible et être, entre guillemets, pratiquement le premier sur le marché avec une nouvelle idée.
Alors moi, je change un tout petit peu de sujet pour venir vers le running. Cet été ou l'été dernier, j'ai lu un bouquin hyper intéressant sur l'évolution des baskets de running. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs philosophies avec des chaussures qui ont beaucoup de drop et d'autres très très peu de drop. Et que les tendances ont aussi changent assez rapidement. Je me rappelle qu'en 2012-2015, on était sur du Flyknit Racer, des baskets très épurées, très proches du sol, très fines. Et puis après, t'as le Boost qui est arrivé. Et aujourd'hui, alors je sais plus en quelle matière sont les nouvelles Adidas qui sortent, comme celles que tu portes, avec des drops beaucoup plus importants. Est-ce que toi, tu ressens aussi ces tendances de running? Et je sais qu'il y avait même la basket avec les 5 orteils séparés, qui avait la Barefoot ou quelque chose comme ça, qui avait cartonné vers 2010. Parce que les gens voulaient courir proche du terrain. Est-ce que toi, tu ressens ces tendances? Et aujourd'hui, on est sur quelle tendance? Maximaliste, minimaliste?
En fait, il y a un peu de tout. Tu vois, on a beaucoup de chaussures dans la range et beaucoup de chaussures qui répondent à différents besoins. Il y a une tendance, en fait, chaque franchise, tu as différentes franchises dans Adidas Running, tu as Supernova, qui est plutôt confort, tu as Adistar, qui est très, justement, très, très high-stack, comme la Hoka. Tu vois, les Hoka, elles sont très...
Ok, ouais, tout à fait, très haute.
Et donc, tu as vraiment des tendances, en fait, dans chaque. Donc, c'est difficile
donc aujourd'hui,
le
coureur choisit celle qui lui va le mieux. On n'est plus sur des grandes philosophies de running.
Il y a encore la tendance de beaucoup de matières, enfin, high-stack.
Ouais. Et toi, il y a des trucs qui t'inspirent plus que d'autres?
Tu aurais
plutôt envie de créer une basket minimaliste, une basket avec plus de drop. T'as des contraintes qui te parlent plus?
Non, il n'y a pas de contraintes. Je pense que j'ai déjà travaillé sur les deux styles, donc ouais. Plutôt une chaussure autre que running serait
pas
une
mal.
Opportunité.
Bon, ils nous écoutent. Non, on va leur transmettre. Vous avez encore une question? Il nous reste 2 minutes, mes amis. Et peut-être j'en profite juste pour embrasser, leur souhaiter une très bonne année. Jaime, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Raph qui a fait vivre la story. D'habitude, c'est Jaime qu'on embrasse fort. Snicopad nous rejoint bientôt, on l'embrasse. Et je fais aussi une dédicace à mes ramps qui doivent m'écouter et à la MIF.
Ouais, j'en ai eu 1 milliard des questions, mais on va pas pouvoir tous les traiter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Pauline, ce job de footwear designer, est-ce que c'est ton dream job?
Ouais, c'est mon dream job et j'ai réussi à atteindre ce que je voulais atteindre. Enfin, de mettre des chaussures sur le marché, c'est assez incroyable. Ou tu sens que c'est toi qui as.
Est-ce que t'allais en acheter une? Est-ce que t'allais la voir dans le magasin?
Je suis allée la voir en magasin, ouais. Mais en fait, je l'ai eu en sample size, donc j'ai pas vraiment acheté. Mais Mais... Et ce que maintenant j'ai envie de voir, c'est si des gens courent avec. Tu vois, pour voir est-ce que le consommateur, il
l'utilise.
Il l'utilise ou pas.
Parce que finalement, ce qu'on... Elle postait ça sur ses réseaux il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus dans quelle ville t'étais. Tu t'es pris en photo devant une vitrine avec la supernova qui était exposée dans la vitrine. Et finalement, moi, je trouve que c'est assez incroyable, tu vois, de passer devant une vitrine d'un magasin et de te dire que cette chaussure-là, c'est moi qui l'ai designée, quoi.
Ouais.
Et du coup, si tu as atteint ton dream job maintenant... Est-ce que ta vie professionnelle
terminée, 25 ans, terminée.
Tu vois, finalement, comment tu fais pour retrouver un autre souffle ou tu vois, parce que si déjà maintenant t'as ton dream job, tu designes des chaussures, elles sont en vente, tu poses devant les pairs, tu vois, est-ce que c'est pas compliqué quoi?
Bah après, je pense que je suis encore dans la carrière au début, donc t'as toujours encore à améliorer en tant que quelle est ton opinion et comment tu travailles ton process. Donc je pense que la carrière est encore longue, mais ouais.
Et tu parles souvent, toi, de process. J'ai l'impression que ce qui t'intéresse le plus, finalement, c'est de perfectionner ton process de création. Et ouais, pourquoi vous êtes tant, matrixé ou omnibulé par ça, quoi? Pourquoi c'est aussi important pour vous, quoi?
Je sais pas maintenant.
Ben pour moi, c'est une forme d'amélioration continue du travail, quoi.
Ouais, ouais, non, c'est vrai. C'est finalement comme
après,
un chanteur, un
écrivain. Ouais, il y a plein d'autres opportunités, tu vois.
En tout cas, si jamais tu veux voir des gens courir avec tes baskets, n'hésite pas à faire des dons à Sneaker Empire, nous sponsoriser. Ouais.
Ça marche. Bah, y a demain le run, c'est quoi, mercredi run, où je vais essayer de courir avec pour voir.
Ah.
Parce que je serais curieuse de voir ce que les gens à Strasbourg portent. Mais aussi, j'ai vu qu'elle est impossible à trouver, la Supernova.
Elle est dure à trouver
à Strasbourg.
Ah,
parce qu'il y a deux magasins de run specialty et ils font plus de contrats avec Adidas. Donc...
De toute façon, ça se passe tellement en ligne.
Ouais.
Ça se passe tellement en ligne.
Mais pour revenir sur ce que disait Raph, c'est vrai qu'on a une communauté. Enfin, on est dans une équipe de runners, hein, on peut le dire.
Hein. Ouais,
pour beaucoup chez nous. Hein.
Si vous êtes sample derrière, size,
clairement un petit.
Je suis sample size.
Quand, ouais. Sample size, c'est 42,5 hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est la, ouais.
Est-ce
la
que
taille
vous savez comment ça a été défini, la taille échantillon?
Bonne question, c'est peut-être Jacques qui peut nous aider. Comment ça a été défini? Pourquoi 42,5?
C'était la pointure majoritaire des gens?
Je pense que c'est basé sur des statistiques. Hein. C'est un peu comme les histoires de pointure françaises, anglaises, etc., etc. Donc, c'est des recherches qui ont été faites sur les pieds, les études de pieds, etc. Et je pense que c'est sur cette base-là que la pointure moyenne qui a été décidée. Quoi.
Ouais, parce que c'est la même pointure pour tous les équipementiers.
Ça c'est une excellente question, je sais pas, je sais
mais
pas
Nike,
si c'est
42,5 aussi hein.
Ah ouais.
Non, je crois il y a quelques petits changements, je sais
ouais c'est possible, ah ouais. C'est possible ouais.
Mais t'as aussi la pointure femme simple.
Ouais, ah, il y a une pointure femme sympa.
Ouais,
en femme. Fait c'est 38,5 pour la pointure femme, 42,5 pour la pointure homme, 35 pour la pointure kids. Donc ouais, effectivement, chaque catégorie finalement a sa sample size. Quoi.
Mais je sais que c'est le sujet actuel où ils sont en train de se poser la question sur ça. Justement.
45,
parce que surtout
45
pour femmes, 5.5, c'est ouais.
Je voudrais juste faire une remarque, puisqu'on parle de running.
Ouais.
Running 2024. Pourquoi des marques comme On et Oka ont fait le buzz?
Exactement. Moi, je pense qu'on peut garder cette question pour la semaine prochaine.
Okay,
parce que là,
non,
finalement,
on
nous reste 3 minutes. Ouais. Je sais pas si on
Moi, j'ai un élément de réponse. J'ai un élément de réponse.
Il est rapide ou pas?
Ouais, très rapide. Vas-y, vas-y. Et je me base beaucoup sur ce que Jacques disait. C'est que, et tu parlais de marketing dans la basket. Bah, je pense que ce qui se plaît aux gens, c'est de comprendre le marketing et comprendre au travers du marketing la technologie de la basket. Et sur une on, ça se voit tout de suite. Et ça, je pense que ça fait adhérer.
C'est vrai.
Tu le voyais aussi au boost, non? Quand les premières boosts sont sorties.
Ouais, c'est ça. Je pense que tu as besoin de voir la techno. Et finalement, quand on dit ça, c'était pareil pour la Big Window de chez,
Nike.
Dès que tu as vu le système Air, tu as compris finalement la technologie. Et
puis tu y crois, tout simplement. Crois, parce que si tout est opaque, ben, tu sais pas trop ce qui se passe. Alors que là, le fait que ce soit vraiment visuel, tu te dis, ah ben, en fait, c'est réel ce qu'il me raconte. Je vois un truc qui ressemble à du polystyrène. Ben ouais, ok, c'est du boost, ça va.
Ça n'a pas marché pour la Shox.
La choque, c'est un peu moins.
Bah justement, parce qu'au final, un ressort, tu y crois pas.
Parce que ouais. la différence avec la choque, c'est trop mécanique,
c'est vrai.
Comme système. Le consommateur, il n'a pas besoin d'études, d'engineering, des trucs comme ça. C'est le consommateur décide au premier visuel. Il rentre dans le magasin, il voit le produit et ça le touche ou ça l'attaque ou pas. Et au cas, ça vient d'une idée toute simple. Hein. C'était Jean-Luc Diard, le gars de Annecy, moi je connaissais. C'était un type un fou, quoi, un créatif à toutes les secondes. Et ils ont décidé, en montant les versants, en descendant en courant, que en ayant une semelle beaucoup plus épaisse, ça leur permettait de descendre la montagne beaucoup plus facilement et plus confortablement. Et c'est comme ça que c'est créé Oka avec cette semelle épaisse. C'est, voilà, donc c'est pas des études, dans des labos, etc. Et On, c'est le principe des tunnels. Bon, ça explique, ça dit amorti, etc.
Exactement.
Et voilà, donc c'est pas... Et justement, pour moi, c'est ça. Et le consommateur, lui, c'est au premier regard, au premier truc, qui va flipper ou qui va laisser tomber, quoi.
Et ben voilà, c'est la fin de notre 17e épisode sur les mots de Jacques Chassin. Merci Pauline, tu peux faire une dédicace, on embrasse tout le monde, on embrasse Gis, tous ceux qui nous rejoindront la semaine prochaine.